à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles, et bienvenue dans Histoire de savoir. Aujourd'hui, on va parler podcast dans Histoire de savoir, un podcast qui s'intitule Le Femmes engagées, regard policier. Et c'est avec vous, Juliette Masquelier. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes chercheuse postdoc à Marie Curie, c'est Sciences Po Paris, c'est bien ça, et vous êtes historienne à la base et à la base de ce projet Femmes engagées, regard policier. D'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est ce projet ?
Alors, le podcast, il a été créé dans le cadre d'un projet qui s'appelle Women Exile. C'est un projet qui était financé par Belspo. C'était une collaboration entre l'ULB, l'Université d'Anvers et les archives de l'État en Belgique. Et moi, j'ai été engagée pendant 2 ans comme postdoc entre 2023 et 2025. Et dans ce genre de projet, il y a toujours une partie qui est orientée vers le public. Et donc l'idée, c'était que le podcast, ce soit la partie de la recherche qui parle à un public plus large que les autres livrables du projet, qui sont des articles scientifiques, par exemple.
C'était le plus sympa, c'est sympa, du coup. Enfin, du podcast, évidemment, je ne veux pas dire le contraire. Alors, c'est donc... Brain Woman Exile, donc c'est vraiment sur les femmes en exil, c'est ça ?
C'est ça. Alors le thème général du projet, c'était ramener la question du genre dans l'étude de l'exil et de l'activité politique en exil en Belgique. Et ce qui était vraiment au centre de ce projet, et du fait que c'était une collaboration avec les archives de l'État, c'était aussi de mettre ces archives-là, donc les archives des administrations, les archives de police, les archives de gendarmerie, les archives de naturalisation, au centre du projet. Et en fait, c'est des archives qui sont hyper riches, mais c'est des milliers, voire des millions de dossiers. Et donc c'est parfois un peu difficile de naviguer dans ces archives-là. Alors elles sont très utilisées par les historiens d'immigration, ces archives. Mais là, l'idée centrale du projet, c'était aussi de créer des outils qui permettraient de pouvoir plus facilement retrouver les femmes qui sont parfois un peu cachées dans les archives administratives, et donc de pouvoir permettre aussi que d'autres recherches soient faites plus tard avec cette perspective de genre sur l'histoire des migrations et de l'exil et de l'activité politique en exil.
Oui, parce que c'est ça, c'est plus l'activité politique en exil, puisqu'ici, femmes engagées, ce sont des femmes qui en fait ont été exclues de la Belgique, je ne sais plus comment utiliser le terme exact, pour raisons politiques en fait.
C'est ça. Donc moi, dans le cadre de ce plus grand projet sur lequel on travaillait aussi des archivistes, moi j'ai fait une recherche sur les expulsions pour motifs politiques entre 1919 et 1939, et sur en particulier les expulsions de femmes. Et donc ce qui m'a intéressé, c'était donc l'expulsion, les arrêtés royaux pour motifs politiques, c'est un outil juridique pour expulser des personnes. Donc jusque dans les années 70, il était interdit pour les étrangers résidant sur le territoire en Belgique de faire de la politique ou d'avoir des activités politiques. Et donc l'outil pour sanctionner les personnes qui contreviennent à cette règle, ça peut être l'expulsion pour motif politique. Donc c'est un outil juridique qui s'applique aux personnes qui sont résidents, donc qui ont le droit d'être sur le sol belge. Et donc évidemment, ce qui est intéressant, c'est que la mise en œuvre de cet outil, il répond à des enjeux politiques et à des agendas et des calendriers qui sont ceux des gouvernements. Et c'est pour ça que moi j'ai étudié cette période de l'entre-deux-guerres, qui est une période pendant laquelle on observe la montée du communisme à l'international, et qui est aussi une période de crise économique, et donc qui est une période pendant laquelle la répression sur les personnes qui sont politiquement actives en Belgique va s'accroître de manière exponentielle. Donc on a vraiment un pic des expulsions pour motifs politiques entre le début des années 30 et la moitié des années 30.
Avec la montée du fascisme aussi, qui joue ou pas spécialement ?
Alors, ce que moi j'ai fait, c'est de lister toutes ces personnes et puis de prendre les femmes. Donc j'ai une cohorte de plus ou moins 245 femmes qui ont été expulsées pour motifs politiques. Et sur cette cohorte-là, c'est vraiment principalement pour des raisons de suspicion de communisme que les personnes sont expulsées. Parfois c'est participation à des grèves, parfois c'est participation à des réunions, propagande subversive, des choses comme ça. Il y a des profils, je vais dire, fascistes, mais ils sont vraiment très marginaux. Il y en a quelques-unes, et notamment dans le contexte de l'arrivée d'Hitler au pouvoir en Allemagne et de la crainte de l'agitation anti-belge qui pourrait venir d'Allemagne. Alors là, il va y avoir des expulsions d'hitlériens, hitlériennes ou de croates nationalistes. Mais c'est vraiment un chiffre marginal comparé à, disons là, l'obsession de la police des étrangers pour les communistes.
Oui, c'est vraiment quelque chose qui ressort beaucoup. Et alors en plus, si on cumule être juif et communiste, alors là, on avait l'expulsion d'office, quoi, quasi.
Oui, tout à fait. En fait, on voit aussi, donc, quand on étudie l'ensemble de ces dossiers, parce que dans le podcast, en fait, il y en a 6, oui. Mais donc l'idée de ma recherche, c'est de travailler sur l'ensemble de la cohorte des femmes. On voit que l'attention de la police des étrangers et de la sûreté de l'État est très attirée par certains profils. Et on voit que les classes populaires sont très prépondérantes. On voit que les étudiantes sont très présentes aussi dans la cohorte, que les juifs et les juives sont très présentes dans la cohorte. Et aussi les personnes originaires des pays de l'Est, il y a énormément de Polonaises, de Roumaines et de Russes.
Et donc comment est-ce que, on va y arriver alors, comment est-ce que vous avez choisi donc 6 femmes sur les 244, c'est ça?
Ouais, plus ou moins 245.
245, voilà. Comment est-ce qu'on choisit 6 personnes dans les 245?
Alors l'idée c'était de choisir à la fois des profils pour lesquels j'avais suffisamment d'informations dans les dossiers, parce que en réalité, donc les dossiers auxquels moi j'avais accès, c'est les dossiers administratifs de la police des étrangers. Mais en fait, la police qui enquêtait vraiment sur le politique, c'est la sûreté de l'État, et ces dossiers, ils n'existent plus. Ils ont été brûlés au moment où les nazis sont arrivés en Belgique en 1940, et donc ils ont été détruits, donc on n'a pas ces dossiers. Donc on utilise en quelque sorte un reflet incomplet de ces informations politiques-là que collectait la Sûreté de l'État. Et donc j'ai pris d'une part des personnes pour lesquelles j'avais suffisamment d'informations pour pouvoir un peu retracer un parcours et que ce soit un petit peu intéressant. J'ai pris des personnes qui avaient des profils suffisamment différents pour pouvoir éclairer des aspects très différents de cette histoire-là. Donc il y a par exemple les étudiantes qui sont un profil qui parle plutôt de la fin des années 20 et du début des années 30. J'ai pris une participante à une grève qui est vraiment les grèves de 1932. C'est vraiment un épisode important de l'histoire sociale en Belgique. J'ai pris une anarchiste italienne antifasciste parce que c'est aussi un profil qui est assez caractéristique. J'ai pris une femme, une juive expulsée, communiste, expulsée pendant une rafle, qui est aussi une rafle importante, qui a eu lieu au début de 1933 dans une activité du Kulturverein. Et puis j'ai quand même pris un profil de croate nationaliste pour pouvoir montrer aussi la diversité de ces profils. Et puis le choix s'est aussi porté sur des femmes qui permettaient d'aborder des sujets différents. Par exemple, le choix de Emiliana Pionnet, l'anarchiste, elle permet de parler aussi de comment est-ce que le genre peut influencer le regard que la police des étrangers porte sur les personnes, parce que elle est accusée d'incitation à la débauche, de naturalisme, de prostitution. Donc, ces différents profils me permettaient aussi d'aborder des sujets du type la surveillance, le biais du genre et des choses comme ça.
Voilà, et c'est justement par le biais du genre, parce que c'est là un peu le but aussi de votre recherche. Qu'est-ce qu'on remarque en fait que les parce que dans ce qu'on écoute, on a l'impression que la femme qui est expulsée est souvent aussi liée à son mari, ou pas finalement, parce qu'il y en a une qui ne l'est pas. Mais que donc, comment est-ce qu'elle est vue, la femme, à ce moment-là
Alors, il y a un peu, je vais dire, il y a deux volets à ma réponse. Le premier volet, c'est que, évidemment, les agents ont les lunettes de leur époque, et donc leur jugement personnel influe sur la manière dont ils vont considérer quelqu'un comme suspect ou dont ils vont décider d'orienter la surveillance vers une personne ou vers une autre. Et leurs jugements vont aussi influer sur les décisions qu'ils vont prendre, puisqu'on voit que ces décisions, elles sont aussi très arbitraires. Par exemple, d'appliquer ou de ne pas appliquer une mesure d'expulsion. Une bonne mère aura probablement plus de chances de voir... Enfin, celle qui est considérée et vue par les agents comme étant une bonne mère aura peut-être plus de chances de voir suspendre son expulsion que une femme dont les rapports mentionnent que on ne sait pas trop à quelle heure elle rentre et qui n'est pas mariée. Et donc voilà. Donc forcément, ce regard-là des agents, il a un rôle. Mais par contre, ce que la recherche montre aussi, c'est que les agents ne dénient pas nécessairement toute agentivité politique aux femmes. Par contre, leur caractérisation de qu'est-ce qui est une activité politique subversive, elle correspond aux activités politiques traditionnellement plus masculines. Prendre la parole dans des réunions, être le dirigeant d'un mouvement, faire de la propagande subversive. Donc, ça... participer à des manifestations, donc ça c'est ce que eux considèrent comme étant subversif politiquement et donc pouvant justifier une expulsion. Mais si une femme, dans un contexte de où on considère qu'il y a une menace communiste, donc que ces personnes peuvent être un danger pour la sûreté de l'État, dans ce contexte-là, si une femme fait tout ce que eux considèrent comme étant subversif, elle sera expulsée comme peut être expulsé un homme, et dans la cohorte, il y a des femmes qui sont expulsées alors que leur mari n'est pas inquiété, tout comme il y a des femmes qui sont expulsées avant leur mari, en même temps que leur mari, et puis il y a beaucoup de célibataires qui, elles, forcément, il n'y a pas de mari pour les cacher dans leur dossier, donc qui aussi vont être particulièrement exposées.
C'était l'exemple, par exemple, en 1932, il y a de grandes manifestations en Belgique. Et là, il y a une femme qui a l'air d'être prise dans la manifestation, mais sans le faire exprès. Qu'est-ce qu'une femme engagée qui est expulsée politiquement ? Est-ce que dès qu'on est expulsé pour raison politique, est-ce qu'on est engagé ?
Alors ça, c'est la question du prisme par lequel nous, on va prendre le sujet. En fait, puisque j'ai travaillé à partir... des dossiers de la police des étrangers, je n'ai comme point d'entrée que leur regard à eux. Donc, il faudrait pouvoir multiplier les sources, d'ailleurs c'est possible, et les gens qui travaillent sur l'histoire des mobilisations ne travaillent pas que à partir des archives de police. Il y a des archives de mouvements sociaux, il y a des archives de partis politiques, il y a des archives personnelles, des archives privées qui peuvent être mobilisées pour avoir plusieurs points de vue sur le réel et qu'est-ce qui s'est vraiment passé. En l'occurrence ici, moi je travaille que à partir des archives de police. Donc au final, je ne pourrais jamais trancher, je ne pourrais jamais savoir. Ce cas dont vous parlez, c'est l'épisode 2, il est vraiment intéressant justement parce que je pense qu'il montre à quel point c'est difficile d'avoir accès à cette réalité qu'il y a derrière, puisqu'on a accès à la fois au rapport des agents, au jugement des policiers, et on a accès aux lettres qui sont écrites par cette femme et qui, évidemment, essaye de se défendre. Donc, elle ne reflète pas non plus la réalité. Elle reflète une stratégie. Est-ce qu'elle, elle cherche à faire... à obtenir, en réalité. Et donc là, en effet, tout au long du dossier, on est très partagé parce que c'est très difficile de savoir si réellement cette femme était militante ou si cette femme a été prise ou si elle était juste gréviste et qu'elle a participé à cette grève et c'était peut-être sa seule manifestation, on ne sait pas. Par contre, ce qu'on peut raisonnablement penser, c'est que son profil de femme ouvrière a aussi joué en sa défaveur, c'est-à-dire que on peut raisonnablement penser que pour la police des étrangers et la sûreté de l'État, cette femme en tant qu'ouvrière potentiellement ayant participé à une grève représente un danger pour leur ordre social.
Donc c'était plus son appartenance à une classe sociale, on pourrait dire, qui a joué en sa défaveur quelque part.
Alors, je pense que oui, mais je pense qu'on ne pourra jamais avoir le fin mot de l'histoire, sauf si on tombe demain sur ces journaux intimes pendant les 10 années qui correspondent et qui pourraient nous permettre d'avoir un accès à elle son parcours et la manière dont elle se raconte à elle son parcours. Mais sinon, on n'aura jamais le fin mot de cette histoire.
Et alors, mais c'était elle aussi qui était là en Belgique depuis très longtemps en plus. Donc là, on voit que on a beau être depuis longtemps dans le pays, on peut être expulsé du jour au lendemain pour raison, pour activité politique en fait.
Oui, et c'est caractéristique de bon nombre de personnes qui ont été expulsées au cours de ces grèves précisément. Parce que les grèves de 1932, c'est un moment insurrectionnel qui a embrasé l'ensemble du pays et qui a fait très peur à la classe politique. Et donc qui a été très fortement réprimé, et notamment tous les étrangers qui ont participé à ces grèves ont été très fortement réprimés. Et pour bon nombre d'entre eux, expulsés, même s'ils étaient, en effet, je pense que ça faisait plus de 20 ans qu'elle habitait en Belgique.
Mmh. C'est incroyable quand même. Enfin, finalement, c'est ce qu'on entend encore aujourd'hui quelque part pour certains. Mais je suppose que là, de toute façon, c'était des procédures qui étaient complètement, complètement différentes.
C'est toujours qu'un faux départ, sans changement d'adresse. J'ai beau vider les placards, je retourne ma veste. Quand c'est l'un qui part, c'est que l'autre reste. Pourtant, tous les soirs, je mens, je fais semblant de croire. Je déroule sans dénouement de notre longue histoire. Si tu cherches la bagarre, sache que rien n'impresse. C'est un peu tôt ou trop tard pour faire des politesses. Mais si on s'accorde quelque part, c'est pour la beauté du geste. Pourtant, tous les soirs, je mens. Je fais semblant de croire au jeu de rôle sans dénouement de notre longue histoire. Tous les soirs, je mens. Je fais semblant de croire au jeu de rôle sans dénouement de notre longue histoire.
Au bout de l'épisode.
Mais parfois, on est très frustré au bout du dossier parce qu'on ne sait pas ce que deviennent les personnes. Après, de nouveau, c'est possible d'aller chercher dans d'autres archives. C'est possible, ce serait possible de mettre en œuvre de grands moyens pour retrouver chacune de ces personnes. Et en fait, c'est ça qui est frustrant, c'est que ce serait intéressant de retrouver chacune de ces personnes. Et en fait, il y en a énormément. Mais par exemple, on a des étudiants ont travaillé sur des dossiers pendant les deux dernières années dans le cadre des séminaires d'histoire. Et certaines des étudiants ont été, par exemple, demander des archives en Italie, demander des archives en Suisse, et ont pu retracer beaucoup plus loin ces parcours-là. Après, voilà. Moi, dans le cadre de cette démarche-là, j'étais limitée à ce que je pouvais trouver dans le dossier de la police des étrangers.
C'est toujours l'habitude du happy end, hein, c'est à cause de ça. Alors Juliette Masquelier, Vous parlez des archives que vous avez, où vous êtes allé chercher en fait. Ce sont les archives de la police des étrangers. C'est une police qui est très contemporaine. C'est quelque chose qui a été. Je ne sais pas si vous avez travaillé sur c'est quoi cette police des étrangers, depuis quand elle existe et quel est son rôle à ce moment-là. Est-ce que c'est vraiment la surveillance de tous les étrangers par exemple ?
Alors, la police des étrangers, elle a été créée en 1832, donc c'est vraiment contemporain du tout début de la Belgique. Et donc, elle fait partie d'un ensemble plus vaste qui est la sûreté publique. Et en fait, à l'époque, la sûreté publique avait pour mission donc, de veiller sur la sécurité intérieure de ce tout jeune pays qui était la Belgique. Et donc, il y avait deux aspects qui l'intéressaient particulièrement. C'était l'aspect politique. Donc qu'il n'y ait pas d'éléments étrangers perturbateurs qui pourraient venir mettre en danger ce jeune État. Et puis, il y avait aussi un œil assez appuyé sur les vagabonds, les indigents. Et donc, c'était aussi une question de surveiller les personnes qui pouvaient être très mobiles et qui pouvaient...
qui était en marge finalement de la société quelque part.
Exactement. Qui pouvait constituer une classe dangereuse aux yeux de...
Et donc ça s'appelle la police des étrangers, donc c'est quand même, c'est pas rien comme nom. Dès le départ ça s'appelle comme ça ou...
Oui, ça s'appelle donc la police des étrangers et sa mission, ça va être de constituer des dossiers pour toutes les personnes étrangères résidant en Belgique. Et donc c'est des dossiers administratifs. Et dans ces dossiers-là, on a toutes les informations quand une personne arrive sur le territoire, quand une personne se déclare à la commune dans laquelle elle réside, à chaque fois qu'elle déménage, toutes les informations. Donc en fait, l'idée de créer cette sûreté publique et cette police des étrangers, c'est une idée de centraliser les informations. Toutes les informations qui sont récoltées partout dans le pays, dans toutes les municipalités, etc., elles doivent remonter vers ce bureau central où finalement il y a assez peu de personnes qui travaillent, mais qui collectent toutes ces informations et qui vont classer les documents dans les dossiers pour chaque personne. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que donc, c'est une administration qui va se créer et qui va se consolider au fur et à mesure, elle va se développer. Par exemple... vers la fin du 19e siècle, vers 1860, la stratégie ne va plus être une stratégie de contrôler les frontières du pays. Il va s'agir de pouvoir savoir à tout moment où se trouvent les personnes, même quand elles circulent dans le pays. Et c'est pour ça que ces dossiers vont prendre une importance à chaque fois que quelqu'un déménage, à chaque fois que quelqu'un, par exemple, fait un séjour à l'hôpital, si quelqu'un s'inscrit à l'université. Toutes ces traces administratives des personnes... elles sont relayées et collectées et centralisées dans les dossiers administratifs. Et c'est pour ça que ces dossiers sont une source incroyable pour l'histoire des migrations, parce que en fait, c'est vraiment de la vie quotidienne, on a vraiment toutes sortes d'informations et on peut suivre le parcours des personnes pendant toute leur vie et pendant tout leur séjour dans le pays.
C'est pour ça qu'en fait, il y a un tel foisonnement, en fait, une telle quantité d'archives, finalement, de cette police des étrangers.
Oui, il y a plusieurs millions, je pense.
Ouais, il parlait de kilomètres aussi. Ouais, ouais. Je me suis dit, est-ce qu'il a réellement mis tous les dossiers les uns derrière les autres ? Mais c'était énorme comme chiffre, oui, donc c'est à coup de millions. Et donc, en fait, cette police des étrangers va s'appeler plus tard, finalement, assez récemment, c'est l'Office des étrangers, en fait.
Oui, elle a changé de nom en 1977 pour Office des étrangers. Et elle a quitté le giron de la sûreté publique en 1994, si je ne me trompe pas. Donc, elle s'est indépendantisée de la sûreté publique.
Et donc, cette volonté, donc il y avait vraiment une volonté de surveiller les étrangers. Aujourd'hui, l'Office des étrangers... n'a plus vraiment ce rôle de police quelque part, mais après on ne sait pas si leurs archives sont toujours aussi importantes.
Alors je pense que leurs archives sont toujours aussi importantes et seront des ressources incroyables pour connaître la société d'aujourd'hui et le regard que portent aujourd'hui et la manière dont les sociétés administrent aujourd'hui l'immigration, ça fait aucun doute.
Et ça fait aucun doute aussi qu'on va pouvoir voir aussi quelle est l'évolution finalement, mais même des migrations qui arrivent dans nos pays, mais surtout en fait l'accueil ou le non-accueil qui leur est fait également. Par rapport à vous disiez tout à l'heure que au niveau des archives de la Sûreté de l'État, ils ont tout brûlé Seconde Guerre mondiale. Bon, déjà ça doit être horrible de se dire ça, mais pourquoi est-ce que ça a été brûlé?
Donc c'était les archives de la Sûreté de l'État. Donc c'était tout ce qui relevait de la surveillance politique des Belges comme des étrangers. Alors je ne suis pas spécialiste de cet événement en particulier, ni de la Seconde Guerre mondiale. À mon sens, c'est une mesure de prévention en contexte de guerre pour éviter que les nazis puissent mettre la main sur des informations politiques sensibles. Donc c'est, je pense que c'est préventif.
Et c'est peut-être pas plus mal aussi. Donc votre podcast, il se décline en 6 épisodes.
Comment ? 5 épisodes.
5 épisodes, mais c'est 6 femmes parce qu'il y a les deux sœurs au début. C'était, voilà, désolée. Et donc comment ça s'est créé ? Comment ça s'est construit ?
Déjà, donc l'idée c'était de pouvoir partager cette recherche sur les expulsions avec un public plus large. Et donc j'ai travaillé pour ça avec une amie qui s'appelle Chédia Leroy et qui est réalisatrice de documentaires radio. Alors l'idée c'était de suivre 3 fils rouges tout au long du podcast. Le premier c'était mon enquête à moi, comment est-ce qu'on fait de l'histoire, comment est-ce qu'on travaille sur ce genre d'archives, ce genre de sujet. Et c'est pour ça qu'on a essayé de mettre vraiment en valeur les archives, d'essayer de les faire lire pour qu'on puisse toucher un peu à ce que ça peut être, ce matériel des archives. Donc d'abord, cette enquête historique, et aussi pour montrer un peu quelles étaient les limites de ce qu'on peut savoir ou pas savoir en utilisant ce genre de matériaux. Le deuxième fil rouge, c'était les vies des femmes. Donc essayer de mettre en avant des personnalités, des parcours qui sont des parcours à la fois, c'est banal et en même temps, je pense que c'est remarquable. Donc vraiment essayer de les mettre en lumière dans la mesure du possible, parce qu'évidemment les traces venant vraiment d'elles dans les archives qu'on a utilisées, il n'y en a pas beaucoup.
Oh, les lettres qu'elles envoient pour pouvoir rester sur le territoire, elles sont très touchantes,
ouais,
je trouvais.
Oui, ça fait partie des... C'est un peu les seules vraies traces d'elles avec les photographies. Et donc oui, c'est sûr que quand on les trouve, ça a une dimension tout autre que les archives administratives. Et donc, notre troisième fil rouge, c'était le regard policier, évidemment. Puisqu'on travaille à partir d'archives de police, en fait, c'est à peu près la seule chose sur laquelle on peut parler. C'est ce regard policier et comment est-ce qu'il se construit. Et donc, on a essayé de nouer ces 3 fils à travers les 5 épisodes pour mettre en lumière des sujets, des thématiques un petit peu différentes, comme... le genre, comme par exemple les étudiantes, les juifs communistes, la répression, les rafles, les grèves. Donc voilà, à chaque fois c'était une grande thématique par épisode et avec toujours ces 3 fils rouges qu'on essayait de tracer ensemble.
Alors, il n'y a pas que l'histoire de ces femmes aussi qui est racontée, il y a tout un contexte aussi, enfin, vous remettez tout en contexte, et puis le premier épisode explique aussi les archives générales de l'État, on dit plus les archives générales du Royaume ?
Si, mais donc ça, les archives générales du Royaume, c'est le nom de celles qui sont à Bruxelles,
okay.
Et puis les archives de l'État en Belgique, je pense que c'est le nom, parce que donc il y a des dépôts évidemment partout en Belgique, vu que... C'est des archives très très substantielles, mais oui, on peut dire les deux.
Ça va être passionnant en fait de fouiller entre guillemets dans des histoires comme ça qu'on découvre, parce que c'est des boîtes si je ne m'abuse, avec des quantités de papier, enfin, c'est impressionnant quand même les archives.
Oui, et pouvoir descendre donc accompagné de Philippe Strub, descendre dans les rayonnages et voir toutes ces boîtes avec, avec tous ces dossiers qui, de nouveau, qui, en réalité, qui rentrent vraiment dans l'intimité des personnes de manière très très étroite, parce que c'est les documents administratifs, par exemple les documents d'entrée et de sortie des hôpitaux, c'est quand même des données personnelles, et par ailleurs, dans beaucoup de cas, il y a aussi des rapports de police et des rapports de surveillance de police, donc c'est très très intime comme, comme archive aussi, comme matériel.
Et donc il y a cette dimension-là que vous abordez dans le podcast, il y a aussi toute la contextualisation en fait, de l'histoire aussi, enfin, vous ne laissez pas l'auditeur juste avec l'histoire de ces femmes, il y a vraiment une remise en contexte importante.
Mais oui, parce qu'en fait, elles sont... C'est ça qui est aussi intéressant, c'est qu'en fait, à travers elles, on peut raconter l'histoire de l'Europe, presque, parce que c'est pas que l'histoire de la Belgique, c'est aussi ces personnes, elles fuient le fascisme en Italie, elles fuient le nazisme en Allemagne, donc c'est vraiment une histoire européenne, une histoire de la Belgique, une histoire sociale de la Belgique, une histoire politique de la Belgique, puisque, de nouveau, c'est des choix politiques de caractériser des personnes comme étant indésirables, comme étant politiquement indésirables. Tout ça, ça reflète des choix politiques d'une période, l'entre-deux-guerres, qui est quand même une période extrêmement riche et extrêmement intéressante.
Et pour revenir sur la question du genre aussi, ce qui est intéressant, c'est de voir, une fois qu'elle se marie avec un Belge, ah ben en fait, là, elles deviennent de nouveau complètement respectables et leur expulsion devient caduque, en fait.
Alors,
j'ai même utilisé le bon terme, je crois.
Elles ne deviennent pas respectables pour autant, parce qu'en l'occurrence, dans ce cas-là, elle a continué à faire... donc, c'est Nadejda. Elle a continué à faire l'objet de surveillance politique, mais par contre, elle sort de la juridiction de la police des étrangers. Mmh. Et donc, on ne peut plus l'expulser. En effet, dès lors qu'une étrangère épousait un Belge, elle obtenait la nationalité de son mari. Mais ce qu'il faut se dire aussi, c'est que ça fonctionne dans l'autre sens aussi. C'est-à-dire que dans ma cohorte, j'ai des femmes qui sont nées belges, qui se sont mariées avec soit un Allemand, soit un Français, et qui sont expulsées pour motifs politiques, et qui ne parviennent pas à faire lever leur expulsion, et qui se retrouvent à devoir quitter leur famille, etc., et à ne plus pouvoir revenir en Belgique, parce qu'elles ont la nationalité de leur époux, et qu'elles ont eu la mauvaise idée de franchir la porte d'une réunion communiste locale, par exemple, et qu'elles ont été dénoncées...
Ah, ça, moi, c'était si un homme se marie avec une femme belge, est-ce que du coup, il devient belge aussi ?
Ah non, non. Les femmes prennent la nationalité de leur mari dans les années 30. Et donc, si une femme belge épouse un étranger, eh ben, elle devient elle-même étrangère dans son pays.
Et donc, il peut être expulsé.
Et donc, elle peut être expulsée si elle contrevient à la réglementation sur les étrangers.
C'est intéressant, ça. c'est violent, d'ailleurs, aussi, par la même occasion. Et... est-ce que vous avez fait un lien avec qu'est-ce que ça dit d'aujourd'hui, en fait, cette étude que vous avez pu faire ? Est-ce que ça dit quelque chose d'aujourd'hui ? Est-ce que vous avez eu envie de faire ce parallèle Alors, parce que ce qui s'est passé avant dit toujours quelque chose de ce qui se passe aujourd'hui ou...
Alors, je pense qu'il y a plein de liens à faire et que les gens qui écoutent le podcast feront probablement plein de liens. Je pense que c'est plus délicat pour moi de les faire parce que je ne suis pas une experte de la manière dont fonctionnent aujourd'hui les administrations en Belgique. Je pense que pour autant, j'ai par exemple lu, il y a les sociologies des guichets, des personnes qui travaillent sur la manière dont travaillent les fonctionnaires, et notamment Carla Macia, ici de l'ULB, qui a travaillé sur l'Office des étrangers, sur les guichets, et sur comment est-ce qu'on traitait les demandes des personnes et tout ça. Donc il y a des recherches contemporaines qui font vraiment très très fort écho à cette recherche-là dans les dossiers, puisque c'est toute la question de comment est-ce qu'on administre les populations, de comment est-ce qu'on prend des décisions par rapport à des questions qui sont posées. Est-ce qu'on donne un délai ? Est-ce qu'on accepte ? Enfin voilà, est-ce qu'on suit la règle ou est-ce qu'on fait une exception à la règle ? Donc tous ces questionnements-là, ils sont extrêmement contemporains et les sociologues qui travaillent sur les administrations contemporaines peuvent se les poser aussi et peuvent les observer aussi. Donc ça, c'est des parallèles qui sont vraiment intéressants à faire. Et ça fonctionne aussi par rapport à, aux administrations qui s'occupent des étrangers. Parce que hier comme aujourd'hui, ça pose toutes les questions. Enfin, ça, ça en dit beaucoup plus sur une société que uniquement la question de comment travaillent les fonctionnaires. C'est comment est-ce que voilà, comment est-ce qu'on accueille les étrangers, comment est-ce que on suspecte ou comment, enfin voilà, quelles sont les attitudes vis-à-vis des étrangers. Et par ailleurs, je pense que hier comme aujourd'hui, les politiques publiques qui sont menées en matière d'accueil, d'immigration et tout ça, elles sont le reflet d'enjeux qui ne sont pas des enjeux neutres, qui sont des enjeux politiques.
Voilà. Merci. Juliette Bascoli, en tout cas, on retrouve votre podcast Femmes engagées, regards policiers sur les podcasts de l'ULB et qu'on retrouve également aussi sur toutes les plateformes de podcasts. Est-ce que ça vous donne envie d'en faire d'autres? Bonne question.
En réalité, oui. En réalité, je pense que ça me donne deux envies. Déjà, je suis loin d'avoir fait le tour de tout ce qui était possible de faire avec la richesse du matériau que j'ai trouvé dans la police des étrangers pour cette recherche-ci. Et c'est beaucoup de boulot, quand même.
En effet, mais en tout cas, si le cœur vous en dit, eh bien, n'hésitez pas à nous dire si un jour, eh bien, vous faites de nouveaux podcasts. Et ce sera avec plaisir. Ou d'autres recherches tout court, ou plein d'autres choses encore. Je vous remercie beaucoup de votre venue.
Merci pour votre invitation.
Et à très bientôt. Au revoir.